On va parler du Canadien et de la performance de son gardien de but hier soir dans quelques instants. Mais d'abord, Jacques Villeneuve est avec nous.
Oui, effectivement, puisqu'il a annoncé hier qu'il lançait un programme à l'intention des jeunes pilotes. Étant donné les coûts exorbitants associés maintenant à la course automobile, veut permettre à des jeunes moins fortunés d'avoir la chance peut-être de devenir pilote automobile. Il a lancé hier cette école. En fait, c'est une espèce de pilote académie, si on peut utiliser l'expression, en compagnie de Patrick Lemarié, lui aussi un ex-pilote. Et on va aller retrouver Jacques Villeneuve immédiatement. Bonjour Jacques.
Bonjour. Bonjour, oui.
D'où vient cette idée, Jacques Villeneuve, de lancer cette école ou ce concours de pilotage là?
Ben, ça vient de l'évolution en général qu'on a vue en course automobile, où il a toujours fallu de l'argent pour rouler, ça c'est pas grave, mais il y avait toujours une priorité sur le talent. Et maintenant, on met le talent en deuxième plan. C'est ça qui est un peu dommage, parce que tout à l'heure, j'entendais dire pour aider les pilotes moins fortunés. En fait, non, parce que même si un pilote a beaucoup d'argent, il a le droit de venir. C'est pas ça. Ce que l'on veut, c'est vraiment ressortir les plus grands talents possibles. C'est ça le but, c'est de redonner au sport le talent.
Mais pourquoi l'argent l'emporte actuellement, c'était pas le cas avant, sur le talent?
Ben, déjà, il faut regarder, dans les années 70, le sport automobile était tellement dangereux que les familles fortunées interdisaient leurs enfants, leurs fils d'aller faire de la course, sinon ils devaient changer de nom, ils perdaient tout leur héritage, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la course automobile est beaucoup, beaucoup moins dangereuse, elle l'est presque plus. Il y a un côté jet-set d'image hallucinant. Et les papas qui pouvaient pas courir dans les années 70, maintenant veulent à tout prix faire courir leur fils. Donc, on se demande parfois si c'est même le rêve des enfants. Donc, ils sont très contents de cracher des millions de dollars pour que les fils aillent s'amuser. Malheureusement, il y a beaucoup de pilotes très talentueux qui passent à la trappe.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle s'acheter un volant?
Oui, c'est ça. Exactement. C'est avoir Noël tous les jours. Et c'est des jolis cadeaux de Noël, parce que ça veut dire parfois rouler dans des grosses monoplaces, donc c'est assez exceptionnel. Souvent, les gens vont faire des remarques en disant « oui, mais Alonso, lorsqu'il a un F1, il amène des gros budgets ». Non, ce sont plutôt des commanditaires qui veulent s'associer à lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un retour d'image. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose qu'un gars riche qui décide d'aller s'amuser.
Mais là, l'image que j'ai en tête là, quand vous décrivez ça, c'est Lance Stroll, dont le père est très fortuné, qui est maintenant en Formule 1.
Ça pourrait être un exemple, mais l'argent ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Les deux peuvent aller de pair, donc ça, c'est pas un souci. Lance a gagné tout dans les petites catégories. Dans sa première saison, il a fait un podium, donc il y a du potentiel. L'année passée, on ne l'a pas vu, mais est-ce que c'était la faute de l'équipe? Il y avait deux pilotes sans expérience, donc l'équipe est pratiquement morte. Mais cette année, il va être dans son équipe à lui, parce qu'il est propriétaire, ou son père propriétaire. Donc maintenant, il va pouvoir prouver ce qu'il vaut, ou ce qu'il dit valoir. On va en avoir le cœur net cette saison.
Mais en même temps, les écuries sont mal servies parce que elles savent que le pilote est moins talentueux, donc moins de possibilités de victoire.
Oui, là, il y a eu une évolution qui venait des ingénieurs qui se sont dit, avec les millions que l'on va ramener d'un pilote, on va être capable de développer la voiture, donc on n'a pas besoin du talent du pilote. Ils se sont mis ça en tête. Le problème, c'est que au bout de six mois, la voiture n'a pas évolué et les 20 millions de dollars qui sont rentrés, au lieu d'avoir aidé l'évolution technologique de la voiture, les commentaires des pilotes étaient mauvais et les voitures vont avoir perdu peut-être une demi-seconde, donc ça ne fonctionne pas. Et vu qu'ils terminent plus loin au championnat constructeur, ils perdent des droits télévision aussi. Donc les 20 millions qu'ils ont gagnés, ils les ont perdus en droits télé. Donc c'est la machine inverse qui s'est mise en place. Et malheureusement, une fois que les équipes dépendent des pilotes payants, elles oublient comment aller chercher des commanditaires. Et les commanditaires ne veulent pas sponsoriser des voitures qui, de toute façon, ont des pilotes payants.
OK, parlons de votre nouveau projet. Au départ, il y a 96 jeunes qui vont pouvoir s'inscrire. Quels seront les prérequis nécessaires là, pour pouvoir faire partie de ces 96 jeunes au départ?
Bien, déjà, ça va être ouvert aux 14-20 ans. 14-20 ans parce que la Formule 4 commence à 14 ans, ça c'est selon la FIA, donc on doit se baser sur cet aspect-là. Et 20 ans, pourquoi? Parce que même si dans le monde du sport on pousse à tout prix le plus jeune possible, je crois que les plus performants sont tout de même les pilotes qui ont une certaine maturité. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que certains pilotes n'auront pas eu le droit de rouler en karting jusqu'à ce qu'ils aient leurs études, leurs brevets, parce que les parents voulaient pas. Donc, ils vont avoir envie de tenter leur chance à 18-19 ans. et ils sont capables d'avoir du talent. Donc il faut garder ça ouvert un peu. Tout ce qu'on veut pas, c'est des pilotes qui aient déjà des licences, qui ont déjà participé à des championnats.
OK. Et là, il va y avoir un processus d'élimination. À la fin, un grand gagnant qui va pouvoir participer à une saison complète en F4 en Italie. Qu'est-ce que ça représente, la F4, dans le cheminement vers la Formule 1, par exemple?
Ben, la Formule 4, c'est le début de la pyramide. Donc, les pilotes débutent en Formule 4, généralement 14, 15, 16 ans, en sortant du karting. Déjà, pour aller gagner le karting, ils ont dépensé entre 200 et 250 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça fait quoi, 350 000 $? Donc, c'est quand même exorbitant. La Formule 4, dans les bons championnats pour aller en avant, c'est 500 000 euros. Donc, ça aussi, c'est exorbitant. Et c'est ça que le vainqueur va gagner. Il va avoir son championnat gratuit. Parce que pour s'inscrire, il va dépenser 11 500 euros. Donc, ça semble cher, mais pour 5 journées en piste, c'est assez bon. On va garder les 40 meilleurs chronos, plus 8 au choix, parce que certains pilotes vont arriver, peut-être ça va être des skieurs, donc ce ne sera pas des pilotes qui vont sortir du karting, et on va pouvoir voir pendant 5 jours leur évolution. Ensuite, quart de finale, demi-finale et une grande finale qui sera sur la piste de Formule 1 à Manicourt.
Il y a déjà quelque chose de semblable qui existe en France, je crois, hein?
Ben oui, ça s'est remis en place tranquillement, mais ça, c'était très populaire les années 60 jusqu'aux années 90. Alain Prost accédait à la Formule 1 à travers un volant de la sorte, qui était à l'époque je sais plus si c'était le volant Hulk ou le volant Winfield. Il y en a eu plusieurs. Patrick Lemarié, mon associé dans l'aventure, lui aussi était issu d'un volant. Olivier Panis, qui était excédé à la F1, était issu d'un volant. À l'époque, il y avait 3000 jeunes à travers les différentes écoles de ce style en France.
Et ça commence quand?
À Pâques. À Pâques, le premier groupe de 24 et les inscriptions ont débuté aujourd'hui. Et on y va ouvert aux internationaux aussi. On veut des pilotes internationaux et puis on veut des pilotes féminins.
Ben, merci beaucoup, Jacques, et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Et on aura sûrement l'occasion de se reparler parce que la saison de Formule 1 s'en vient dans quelques semaines. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, voilà, notre ami Jacques Villeneuve. Bon, le Canadien, il faut en parler parce que le gardien de but, ton préféré.
Non, mais c'est pas.
Essaye pas. T'avais tes vaches quand t'es arrivé ici.
Ben écoute, on n'avait pas de grandes attentes. Hein?
Non, c'est ça. J'ai compris ça quand tu m'as parlé de lui au début en disant qu'il fera peut-être même pas de club.
Non, mais c'est parce que honnêtement, quand il est arrivé...
Monsieur Niemi.
Oui, Antti Niemi. Et quand il est arrivé, il y a bien des gens qui pensaient qu'il ne jouerait même pas un match avec le Canadien.
Donc, moi?
Jamais. Oui, donc moi. Je suis obligé d'admettre que j'aurais jamais pensé qu'Antti Niemi serait encore à Montréal aujourd'hui et qu'il serait devenu le gardien que l'on voit depuis à peu près 2-3 semaines, là. Depuis le fameux match contre le Lightning de Tampa Bay. Il a remporté une troisième victoire consécutive hier. 52 arrêts. Il est venu à un arrêt d'égaler le record d'équipe chez le Canadien que partagent Carey Price et Wayne Thomas. Il a été spectaculaire. Le Canadien a gagné 5-1 face aux Panthers de la Floride. Et c'est lui qui a été la grande vedette de la rencontre. En première période, 16 tirs des Panthers. Le Canadien n'était pas encore tout à fait remis de sa victoire de la veille face aux Bruins de Boston. Alors, ça a été une première période un peu plus difficile. Et en troisième, là, les Panthers ont essayé une poussée là, alors qu'ils perdaient 3-1. On a bombardé Niemi. Il a été très, très bon. Et écoute, force est d'admettre qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et on va probablement le revoir dans un des deux matchs en fin de semaine. Le Canadien joue un autre 2-2, vendredi à Columbus et samedi au Centre Bell contre les Flyers de Philadelphie.
Belle victoire quand même. Et là, il y a une affaire hier qui est tombée. Là, juste, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'ancien lanceur des Expos.
Oui, John Wetland, qui a été arrêté pour, là, je veux trouver les termes exacts, agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 14 ans, libéré moyennant une caution de 25 000 $. Il a joué pendant 4 ans avec les Expos de Montréal. Et depuis sa retraite, il enseignait le baseball et les études bibliques dans une école secondaire du Texas. Mais on dit que ça n'a rien à voir. L'établissement en question n'est pas impliqué dans l'affaire d'agression sexuelle dont il est accusé. Mais c'était, là, à l'époque, les gens qui suivaient les activités des Expos, c'était un fervent chrétien, là, John Whitland, oui. Et c'est lui qui avait remporté le titre de joueur par excellence de la Série mondiale de 96, remporté par les Yankees de New York. Il était à Montréal l'an dernier dans le cadre des activités entourant les deux matchs des Blue Jays. Stade. Au stade, il faisait partie des invités là, des anciens Expos. Et là, on a appris hier que finalement, il a des petits démêlés avec la justice.
Mais avec un enfant. Là,
c'est... Et quelques squelettes dans son placard, ça a l'air.
Oui, ça ne serait pas le seul cas. Là.
Non, mais disons que, écoute, c'est un peu étonnant là, dans son cas, étant donné que C'est un gars qui manifestait une foi chrétienne.
On a vu au Québec plusieurs qui avaient la foi chrétienne.
Il y en a qui ont des Bibles, puis il manque des pages à leur Bible.
Oui, puis on ne fera pas l'histoire de l'Église, là, mais 8h27. Souvent, c'est du quoi? Je regardais aux États-Unis, ceux qui se faisaient prendre dans des scandales, là, c'était les plus...
Ben, les preachers là, à la télévision.
Ouais,
là.
Puis même des élus républicains là, qui étaient... qui faisaient la morale.
Très associés, oui, à la droite religieuse.
Une petite vie privée un peu différente. La 640, Marc.